Livre deuxième, Le gouvernement. Chapitre 1, La Constitution. Roulement de tambour. Manant, attention. Le président de la République, considérant que toutes les lois restrictives de la liberté de la presse ayant été rapportées, toutes les lois contre l'affichage et le colportage ayant été abolies, le droit de réunion ayant été pleinement rétabli, toutes les lois inconstitutionnelles et toutes les mesures d'état de siège ayant été supprimées, chaque citoyen ayant pu dire ce qu'il a voulu par toutes les formes de publicité, journal, affiche, réunion électorale, tous les engagements pris, notamment le serment du 20 décembre 1848, ayant été scrupuleusement tenus, tous les faits ayant été approfondis, toutes les questions posées et éclaircies, toutes les candidatures publiquement débattues sans qu'on puisse alléguer que la moindre violence ait été exercée contre le moindre citoyen, dans la liberté la plus complète en un mot, le peuple souverain interrogé sur cette question, le peuple français entend-il se remettre pieds et poings liés à la discrétion de M. Louis Bonaparte ? A répondu oui par 7 500 000 suffrages. Interruption de l'auteur. Nous reparlerons des 7 500 000 suffrages. Promulgue. La Constitution dont la teneur suit. Article 1er. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public des Français. Article 2e et suivant. La tribune et la presse, qui entravaient la marche du progrès, sont remplacées par la police et la censure, et par les discussions secrètes du Sénat, du corps législatif et du Conseil d'État. Article dernier. Cette chose qu'on appelait l'intelligence humaine est supprimée. Fait au Palais des Tuileries, 14 janvier 1852. Louis-Napoléon. Vu et scellé du grand sceau, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, E. Rouet. Cette Constitution, qui proclame et affirme hautement la Révolution de 1789 dans ses principes et dans ses conséquences, et qui abolit seulement la liberté, a été évidemment et heureusement inspirée à M. Bonaparte par une vieille affiche d'un théâtre de province qu'il est à propos de rappeler. Aujourd'hui, grande représentation de la Dame Blanche, opéra en 3 actes. Nota, la musique qui embarrassait la marche de l'action sera remplacée par un dialogue vif et piquant. Chapitre 2, le Sénat. Le dialogue vif et piquant, c'est le Conseil d'État, le corps législatif et le Sénat. Il y a donc un Sénat, sans doute, ce grand corps, ce pouvoir pondérateur, ce modérateur suprême, et même la principale splendeur de la Constitution. Occupons-nous-en. Sénat, c'est un Sénat. De quel Sénat parlez-vous ? Est-ce du Sénat qui délibérait sur la sauce à laquelle l'empereur mangerait le turbot ? Est-ce du Sénat dont Napoléon disait, le 5 avril 1814, « Un signe était un ordre pour le Sénat. » Il faisait toujours plus qu'on ne désirait de lui. Est-ce du Sénat dont Napoléon disait en 1805 « Les lâches ont eu peur de me déplaire » Note Thibaudeau, Histoire du Consulat et de l'Empire. Fin de note. Est-ce du Sénat qui arrachait à peu près le même cri à Tibère « Ah, les infâmes, plus esclaves qu'on ne veut » Est-ce du Sénat qui faisait dire à Charles XII « Envoyez ma botte à Stockholm. »« Pourquoi faire, sire ?» demandait le ministre. « Pour présider le Sénat. » Non, ne plaisantons pas. Ils sont 80 cette année. Ils seront 150 l'an prochain. Ils ont à eux seuls et en toute jouissance 14 articles de la Constitution, depuis l'article 19 jusqu'à l'article 33. Ils sont gardiens des libertés publiques. Leurs fonctions sont gratuites, article 22. En conséquence, ils ont de 15 à 30 000 francs par an. ils ont cette spécialité de toucher leur traitement et cette propriété de ne point s'opposer à la promulgation des lois. Ils sont tous des illustrations. Note, toutes les illustrations du pays. Louis Bonaparte. Appel au peuple, 2 décembre 1851. Fin de note. Ceci n'est pas un Sénat manqué. Note. Le Sénat a été manqué. On n'aime pas en France avoir des gens bien payés pour ne faire que quelques mauvais choix. Parole de Napoléon. Mémorial de Sainte-Hélène. Fin de note. Comme celui de l'autre Napoléon. Ceci est un Sénat sérieux. Les maréchaux en sont. Les cardinaux en sont. Monsieur Leboeuf en est. Que faites-vous dans ce pays ? Demande-t-on au Sénat. Nous sommes chargés de garder les libertés publiques. Qu'est-ce que tu fais dans cette ville ? Demande Pierrot à Arlequin. Je suis chargé, dit Arlequin, de peigner le cheval de bronze. On sait ce que c'est que l'esprit de corps. Cet esprit poussera le Sénat à augmenter par tous les moyens son pouvoir. Il détruira, s'il le peut, le corps législatif. Et si l'occasion s'en présente, il pactisera avec les Bourbons. Qui dit ceci ? Le premier consul ? Ou aux Tuileries, en avril 1804. Sans titre, sans pouvoir et en violation de tous les principes, il a livré la patrie et consommé sa ruine. Il a été le jouet de hauts intrigants. Je ne sache pas de corps qui doivent s'inscrire dans l'histoire avec plus d'ignominie que le Sénat. Qui dit cela ? L'empereur. Ou à Sainte-Hélène. Il y a donc un Sénat dans la Constitution du 14 janvier. Mais franchement, c'est une faute. On est accoutumé, maintenant que l'hygiène publique a fait des progrès, à voir la voie publique mieux tenue que cela. Depuis le Sénat de l'Empire, nous croyons qu'on ne déposait plus de Sénat le long des constitutions. Chapitre 3. Le Conseil d'État et le corps législatif. Il y a aussi le Conseil d'État et le corps législatif. Le Conseil d'État, joyeux, payé, joufflu, rose, gras, frais, l'œil vif, l'oreille rouge, le verbe haut, l'épée au côté, du ventre, brodé en or. Le corps législatif, pâle, maigre, triste, brodé en argent. Le Conseil d'État va, vient, entre, sort, revient, règle, dispose, décide, tranche, ordonne. Voit face à face Louis-Napoléon. Le corps législatif marche sur la pointe du pied, roule son chapeau dans ses mains, met le doigt sur sa bouche, sourit humblement, s'assied sur le coin de sa chaise et ne parle que quand on l'interroge. Ses paroles étant naturellement obscènes, défense aux journaux d'y faire la moindre allusion. Le corps législatif vote les lois et l'impôt, article 39. Et quand, croyant avoir besoin d'un renseignement, d'un détail, d'un chiffre, d'un éclaircissement, il se présente chapeau bas à la porte des ministères pour parler au ministre, l'huissier l'attend dans l'antichambre et lui donne, en éclatant de rire, une chiquenaude sur le nez. Tels sont les droits du corps législatif. Constatons que cette situation mélancolique commençait en juin 1852 à arracher quelques soupirs aux individus élégiaques qui font partie de la chose. Le rapport de la commission du budget restera dans la mémoire des hommes comme un des plus déchirants chefs-d'œuvre du genre plaintif. Redisons ces suaves accents. Autrefois, vous le savez, les communications nécessaires en pareil cas existaient directement entre les commissions et les ministres. C'est à ceux-ci qu'on s'adressait pour obtenir les documents indispensables à l'examen des affaires. Ils venaient eux-mêmes avec les chefs de leurs différents services, donner des explications verbales, suffisantes souvent pour prévenir toute discussion ultérieure. Et les résolutions que la commission du budget arrêtait après les avoir entendus, étaient directement soumises à la Chambre. Aujourd'hui, nous ne pouvons avoir de rapport avec le gouvernement que par l'intermédiaire du Conseil d'État, qui, confident et organe de sa pensée, a seul le droit de transmettre au corps législatif les documents qu'à son tour il se fait remettre par les ministres. En un mot, pour les rapports écrits comme pour les communications verbales, les commissaires du gouvernement remplacent les ministres, avec lesquels ils ont dû préalablement s'entendre. Quant aux modifications que la commission peut vouloir proposer, soit par suite d'adoption d'amendements présentés par des députés, soit d'après son propre examen du budget, elles doivent, avant que vous soyez appelés à en délibérer, être renvoyées au Conseil d'État et y être discutées. Là, il est impossible de ne pas le faire remarquer, elles n'ont pas d'interprètes, pas de défenseurs officiels. Ce mode de procédé paraît dérivé de la Constitution elle-même, et, si nous en parlons, c'est uniquement pour vous montrer qu'il a dû entraîner des lenteurs dans l'accomplissement de la tâche de la Commission du budget. Note. Rapport de la Commission du budget du corps législatif, juin 1852. Fin de note. On n'est pas plus tendre dans le reproche. Il est impossible de recevoir avec plus de chasteté et de grâce ce que M. Bonaparte, dans son style d'autocrate, appelle des « garanties de calme ». Note. Préambule de la Constitution. Fin de note. Et ce que Molière, dans sa liberté de grand écrivain, appelle des coups de pied. Note. Crûment. Voyez les fourberies de Scapin. Fin de note. Il y a donc dans la boutique où se fabriquent les lois et les budgets un maître de la maison, le Conseil d'État, et un domestique, le corps législatif. Au terme de la Constitution, qui est-ce qui nomme le maître de la maison ? Monsieur Bonaparte. Qui est-ce qui nomme le domestique ? La nation. C'est bien. Chapitre 4. Les finances. Notons qu'à l'ombre de ces institutions sages, et grâce au coup d'État qui, comme on sait, a rétabli l'ordre, les finances, la sécurité et la prospérité publique, le budget, de l'aveu de M. Gouin, se solde avec 123 millions de déficit. Quant au mouvement commercial depuis le coup d'État, quant à la prospérité des intérêts, quant à la reprise des affaires, il suffit pour l'apprécier de rejeter les mots et de prendre les chiffres. En fait de chiffres, en voici un qui est officiel et qui est décisif. Les escomptes de la Banque de France n'ont produit pendant le premier semestre de 1852 que 589,502 francs 62 centimes pour la caisse centrale. Et les bénéfices des succursales ne se sont élevés qu'à 651,108 francs 7 centimes. C'est la banque elle-même qui en convient dans son rapport semestriel. Du reste, M. Bonaparte ne se gêne pas avec l'impôt. Un beau matin, il s'éveille, bâille, se frotte les yeux, prend une plume et décrète quoi ? Le budget. Achmet III voulut un jour lever des impôts à sa fantaisie. « Invincible seigneur, lui dit son vizir, tes sujets ne peuvent être imposés au-delà de ce que la loi et le prophète prescrivent. » Ce même Bonaparte, étant à Ham, avait écrit « Si les sommes prélevées chaque année sur la généralité des habitants sont employées à des usages improductifs, comme à créer des places inutiles, à élever des monuments stériles, à entretenir au milieu d'une paix profonde une armée plus dispendieuse que celle qui vainquit à Austerlitz, l'impôt, dans ce cas, devient un fardeau écrasant. Il épuise le pays, il prend sans rendre. » Note. Extinction du paupérisme, page 10. Fin de note. À propos de ce mot « budget », une observation nous vient à l'esprit. Aujourd'hui, en 1852, les évêques et les conseillers à la Cour de cassation ont 50 francs par jour. Les archevêques, les conseillers d'État, les premiers présidents et les procureurs généraux ont par jour chacun 69 francs. Les sénateurs, les préfets et les généraux de division reçoivent par jour 83 francs. les présidents de section du Conseil d'État par jour 222 francs, les ministres par jour 252 francs. Monseigneur le prince président, en comprenant comme de juste dans sa dotation la somme pour les châteaux royaux, touche par jour 44 444 francs 44 centimes. On a fait la révolution du 2 décembre contre les 25 francs. Chapitre 5. La liberté de la presse. Nous venons de voir ce que c'est que la législature, ce que c'est que l'administration, ce que c'est que le budget, et la justice. Ce qu'on appelait autrefois la cour de cassation n'est plus que le greffe d'enregistrement des conseils de guerre. Un soldat sort du corps de garde et écrit en marge du livre de la loi « Je veux » ou « Je ne veux pas ». Partout le caporal ordonne et le magistrat contresigne. « Allons, retroussez vos toges, marchez, ou sinon... » De là ces jugements, ces arrêts, ces condamnations abominables. Quel spectacle que ce troupeau de juges, la tête basse et le dos tendu, menés, la crosse aux reins, aux iniquités et aux turpitudes. Et la liberté de la presse, qu'en dire ? N'est-il pas dérisoire seulement de prononcer ce mot ? Cette presse libre, honneur de l'esprit français, clarté faite de tous les points à la fois sur toutes les questions, éveil perpétuel de la nation, où est-elle ? Qu'est-ce que M. Bonaparte en a fait ? Elle est, où est la tribune ? À Paris, 20 journaux anéantis, dans les départements, 80, 100 journaux supprimés, c'est-à-dire à ne voir que le côté matériel de la question, le pain ôté à d'innombrables familles. C'est-à-dire, sachez-le, bourgeois, 100 maisons confisquées, 100 métairies prises à leurs propriétaires, 100 coupons de rente arrachés du grand livre. Identité profonde des principes, la liberté supprimée, c'est la propriété détruite. Que les idiots égoïstes, applaudisseurs du coup d'État, méditent ceci. Pour loi de la presse, un décret posé sur elle, un fetva, un firmant daté de l'étrier impérial, le régime de l'avertissement. On le connaît ce régime, on le voit tous les jours à l'œuvre. Il fallait ces gens-là pour inventer cette chose-là. Jamais le despotisme ne s'est montré plus lourdement insolent et bête que dans cette espèce de censure du lendemain qui précède et annonce la suppression et qui donne la bastonnade à un journal avant de le tuer. Dans ce gouvernement, le niais corrige l'atroce et le tempère. Tout le décret de la presse peut se résumer en une ligne. Je permets que tu parles, mais j'exige que tu te taises. Qui donc règne ? Est-ce Tibère ? Est-ce Shahabaham ? Les trois quarts des journalistes républicains déportés ou proscrits. Le reste, traqué par les commissions mixtes, dispersés, errants, cachés. Ça et là, dans 4 ou 5 journaux survivants, dans 4 ou 5 journaux indépendants, mais guettés, sur la tête desquels pend le gourdin de Maupas. 15 ou 20 écrivains courageux, sérieux, purs, honnêtes, généreux, qui écrivent la chaîne au cou et le boulet au pied. Le talent entre deux factionnaires, l'indépendance bâillonnée, l'honnêteté gardée à vue. Et Veuillot criant « Je suis libre !»